Radio Notre-Dame, la vie prend un sens.
Dans la nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre, pour entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est donc Pascal Parinet, psychanalyste, gestalt-thérapeute et formateur en relations humaines. Avec Marie-Laurence, son épouse, il propose, à travers des parcours qui sont adaptés aux situations diverses de chacun, et ce, au sein de l'Institut de formation Psychrétien, une aide thérapeutique permettant de se réconcilier avec soi-même dans toutes les dimensions de son humanité et avec les autres aussi, et ce, dans la perspective d'une disponibilité plus grande pour accueillir l'action de Dieu dans nos vies. Pascal Parinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, notre sujet de réflexion, de partage ce soir, je disais donc, violence conjugale, comment en sortir et retrouver sa liberté intérieure. Grave problème quand même, enfin.
C'est un grave problème et c'est surtout des terribles souffrances, d'abord pour la victime, pour les enfants aussi, parce que quand c'est un couple, souvent il y a des enfants qui assistent ou qui les vivent d'une façon indirecte. Mmh. Et puis, même pour la personne violente, finalement, alors elle n'est pas toujours consciente d'en souffrir, mais de toute façon, elle en souffre quand même.
Ah oui, on peut pas être bien dans une situation comme ça.
Hein. Voilà, donc globalement, c'est une souffrance pour tous les membres de la famille.
Ah. Oui. Donc c'est vraiment un problème, et on verra, c'est quand même assez courant.
Malheureusement, c'est assez courant. Ça touche tous les milieux sociaux, que ce soit des milieux de classe employés, ouvriers, à cadre supérieur. Il n'y a pas de distinction sociale, il n'y a pas de distinction de pays, il n'y a pas de distinction religieuse. Voilà,
ça touche vraiment le cœur de l'humanité, en fait.
C'est au cœur, malheureusement,
d'une humanité malade, blessée.
Voilà, oui, c'est plutôt un dysfonctionnement des relations familiales ou
humaines,
des relations de couple.
Oui, et toute culture confondue, confession. Oui. Et donc.
Y compris les hommes, d'ailleurs, parce que quand on parle violence conjugale, on pense tout de suite aux femmes victimes.
Ben oui.
Alors, c'est vrai,
la plupart
du temps,
oui.
Plus des femmes. Mais les hommes aussi sont victimes de violences conjugales et on va voir que c'est pas si négligeable que ça. C'est pas dans l'esprit de beaucoup, violence conjugale égale femme victime. On verra que les hommes, c'est aussi des chiffres, alors moins importants que les femmes, mais quand même très importants.
Ben, on en reparlera parce que c'est, on pense pas vraiment que les hommes, ça peut paraître étonnant.
Oui, ça.
Donc, on va en parler tout à l'heure. Alors, c'est quand même une problématique complexe aussi. Hein.
Oui, et malheureusement, on va être obligé de simplifier, d'être un peu dans des clichés, finalement, parce que d'abord, c'est une histoire qui joue à deux.
Mais oui. Intime.
Intime, qui se vit dans l'intimité, qui se vit à deux. Bien sûr, faut protéger les victimes, faut faire tout ce qui est possible pour que ça se passe pas. Mais souvent, quand on en parle, c'est un peu cliché et c'est, en tout cas, on simplifie beaucoup et c'est quelque chose de beaucoup plus complexe puisqu'il s'agit finalement des personnalités de chacun avec ce qu'il peut y avoir de pathologique. Et puis de la relation qui, elle aussi, est structurellement pathologique. Donc,
c'est imbriqué, c'est difficile. Hein,
de... Voilà.
Et des fois, peut-être que l'attirance qu'il y a eu au départ, elle était déjà un peu...
Elle participe. Oui. On pourra, et ça, on le verra...
Inconsciemment,
Inconsciemment, mais c'est aussi ce qui fait que ça continue. Souvent, il y en a un des deux qui va idéaliser l'autre.
Ah oui.
Et peut-être plus du côté des hommes qui sont victimes. Souvent, ils vont idéaliser complètement leur partenaire. Mmh. Et du coup... alors ça remonte, ça a des résonances inconscientes.
Bien sûr, qui remontent loin. Hein,
qui remontent loin. Mmh. Mais c'est ce qui fait aussi qu'ils vont rester
par l'idéalisation.
Pour les femmes, c'est peut-être plus... Alors parfois l'idéalisation, parfois... le désir de sauver, entre guillemets, l'autre ou de le changer.
Ah oui.
Voilà. Et elles ont du mal à lâcher ça et du coup, elles restent dans la relation. Donc, on voit que finalement, chacun est aussi participant de la dynamique, même si la violence est inacceptable et qu'il faut protéger les victimes. Voilà, il y a quand même à prendre en compte que ça se joue à deux et que chacun a une part, alors pas la même, parce que celui ou celle qui est violent, c'est 80% de la part, et puis l'autre a peut-être 20%, 10%, peu importe, mais il participe quand même à cette problématique.
D'accord, oui, donc... Oui, on voit que c'est complexe quand même. Hein. Et alors, on va donner, quelques chiffres, peut-être, qui peuvent indiquer...
Voilà, mais d'après l'Observatoire national de la délinquance en France, alors j'ai des chiffres qui, sur différentes années, en 2010-2011, il y a pratiquement 2% de la population française, donc entre 18 et 75 ans, qui se déclarait avoir été victime de violences physiques ou sexuelles au sein de leur ménage, couple, ce qui représente 840 000 personnes par an.
Oui, 840 000.
Voilà. Et sur 840 000 personnes, alors là, j'ai les chiffres de 2012, il y a à peu près 565 000 femmes, ce qui représente 67%. Donc, ça veut dire qu'il y a un tiers d'hommes.
Ben oui.
Hein,
ce qui est, un tiers, c'est quand même...
Un tiers d'hommes victimes de violences conjugales, ce qui n'est pas négligeable.
Alors, comment fait-on ces estimations ?
Alors d'abord, à partir des dépôts de plainte, mais aussi à travers des études, des sondages, parce que finalement, toutes les victimes ne portent pas plainte. Il y a à peu près un cinquième des victimes, donc de violences physiques, un tiers des victimes de violences sexuelles qui n'ont pas porté plainte. Pas même enregistré une main courante, enfin, qui n'ont pas fait de démarche auprès de la police ou auprès de la justice, ni même parler à un ami ou à un psy. Donc, on voit qu'ils gardent tout en eux. Ce qui est quand même énorme. Et finalement, quand une femme confie les agressions qu'elle subit, le plus souvent, c'est à un proche, donc, ou à un ami, ou à quelqu'un de proche, pour un peu plus de 40%, ou un professionnel, donc à un psy, à une association spécialisée pour à peu près 20%, plutôt qu'à la police.
Oui, elle cherche une aide.
Elle cherche d'abord une aide, peut-être pour comprendre ce qui se passe.
Avant de
porter plainte et finalement de prendre des moyens de se faire protéger aussi.
Oui, c'est ça.
La justice est là pour protéger la victime.
Mais peut-être que la personne ne se rend pas compte tout de suite aussi du danger dans lequel elle est.
Alors, ça met beaucoup de temps pour que la personne se rende compte du danger. D'abord, pour qu'elle se rende compte que c'est vraiment de la violence conjugale. Souvent, il y a une minimisation de la violence. Donc,
un certain déni,
aussi peut-être l'espoir que ça va s'arrêter,
que c'est passager,
et on verra, ça fait partie d'ailleurs du cycle de la violence. Il y a aussi que les femmes sont pas toujours entendues dans leurs plaintes, pas toujours crues. Alors, il y a eu beaucoup d'efforts faits dans la police, par exemple, pour entendre et écouter les femmes victimes de violences, mais ça n'a pas toujours été le cas.
C'était la journée de la femme, il y a deux jours.
Voilà. Et puis, alors, les hommes, ils n'imaginent même pas qu'on puisse les croire. Qu'ils sont victimes.
Ah oui, si, c'est, oui. Eux-mêmes, oui, s'ils sont victimes de violence.
Donc
ils ne portent même pas.
Ils vont même pas porter plainte. Alors, oui, ils portent plainte quand vraiment il y a.
Il faut que ça aille loin. Très loin, oui.
Très loin. La femme porte plainte et du coup, ils portent plainte aussi pour se défendre. Et pour faire valoir qu'ils sont victimes.
Parce que l'homme peut être victime et la femme peut.
Les deux peuvent porter plainte.
D'accord.
Ce qui fait que c'est aussi compliqué pour la police, pour la justice à discerner.
Ils ne sont pas psy de métier, donc c'est plutôt le psy qui va discerner.
Quand c'est de la violence physique et qu'il y a des marques. Ça se voit, c'est facile. Mais quand c'est de la violence sexuelle, par exemple, c'est beaucoup moins visible. Quand c'est de la violence psychologique, c'est encore moins visible. Donc c'est pas si évident que ça.
Et est-ce qu'un psy peut être amené à collaborer avec la police?
Alors, avec la police, pas directement. Sauf s'il y avait vraiment une personne en danger.
Ah oui.
Si une personne est en danger mortel, à ce moment-là, il y a une obligation d'assistance à personne en danger. Plus avec la justice, par exemple, en faisant un certificat, en quelque sorte, de ce qu'on constate chez la personne victime.
Oui, d'accord.
Ça, c'est sans doute le mode le plus fréquent de participation à la justice.
Alors, cette violence physique, par exemple dans les relations intimes, comment elle, enfin, c'est complexe aussi parce que
parce que ça s'accompagne pratiquement tout le temps, en tout cas souvent, de violences psychologiques. Et puis pour un tiers, à la moitié des cas, là c'est compliqué à estimer, d'agressions sexuelles. Donc là c'est plus les violences faites aux femmes. Voilà, aujourd'hui, par exemple, le viol entre conjoints est reconnu, ce qui n'a pas toujours été le cas. Voilà. Et du coup, y a violence physique, pratiquement systématiquement avec la violence physique des violences psychologiques et pour un grand nombre de cas aussi des violences sexuelles.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ces violences conjugales faites aux femmes, par exemple ?
Alors que très souvent, à peu près dans 40% des cas, elles commencent pendant une grossesse.
Ah bon ?
Alors,
Oui, parce que la femme est moins disponible.
Femme est moins disponible, parce que peut-être l'enfant n'est pas forcément désiré, Et puis, la grossesse, c'est quand même une période de changement important pour un couple. C'est à ce moment-là que se met en place les mécanismes de violence, souvent. Ou en tout cas, elle s'aggrave pendant les grossesses. Et là, ça montait à deux tiers des femmes victimes de violences où ça s'est aggravé pendant les grossesses.
Alors quand un enfant attendu dans ces conditions-là, c'est pas un bon départ pour lui.
Non, c'est pas un bon départ. Parce que la mère va vivre des stress extrêmement importants et que l'enfant va les vivre in utero. Et puis, quand ça commence pendant une grossesse, eh bien, dans 90% des cas, ça va continuer après. C'est-à-dire que la grossesse, c'est un peu les circonstances qui font que
ça déclenche une situation latente.
Voilà. Où ça catalyse en quelque sorte, mais une fois que c'est démarré, ça continue.
Merci Pascal Parinet, c'est pas très réjouissant ce que vous nous dites. On va écouter Florent Pagny, savoir aimer, oui, ça c'est important d'apprendre.
Voilà, on en a tous besoin.
Oui, oui. Et dans ces cas-là, vraiment, il y a beaucoup beaucoup d'efforts à faire pour retrouver vraiment le sens de l'amour.
Radio Notre-Dame.
Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer, sans rien attendre en retour, ni égard, ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. Goûter à ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, quand on ne l'attend se voir y croire, pour tromper la peur du vide, entrer comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir, en silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir, se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Apprendre à rêver, à rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, et savoir donner, donner sans attirer mi-mesure, apprendre à rester, vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer, s'en aller.
Voilà, c'était donc Florent Pagny, Savoir aimer. Donc ce soir, nous parlons de situation, on peut dire, de non-amour, un peu,
oui,
de violence.
De haine.
De haine.
Là, on
à ce
est
point
dans la haine.
Ah oui. Ouais.
Enfin, en tout cas, dans le basculement dans la haine.
C'est l'opposé, c'est... enfin, l'amour transcende. Enfin.
Ouais, c'est plus que du non-amour.
Est-ce qu'il y avait de l'amour au départ quand là peut-être oui quand même on peut dire
ou en tout cas de la passion ou
oui,
du sentiment amoureux ou
oui.
Alors du véritable amour c'est plus compliqué à dire mais de l'amour tel qu'on dit dans le langage courant
passionnel ou amoureux.
Oui.
Mais voilà donc c'est quelque chose qui est pas ancré dans
qui est pas dans l'altérité
pas dans l'altérité
c'est
bien de situer comme ça Alors il y a Claire qui demande les chiffres que vous avez cités Pascal Pariné d'où viennent ces chiffres
alors pour certains l'Observatoire national de la délinquance pour d'autres de l'INSEE voilà par exemple où se confient les femmes à un professionnel, à des amis, ça c'est l'INSEE.
C'est
des chiffres qui datent de 2007, ils sont pas forcément tous
réajustés,
Voilà, d'autres de l'OMS sur l'accompagnement du harcèlement psychologique et des agressions sexuelles.
C'est
essentiellement ou l'Observatoire national de la délinquance, ou l'INSEE, ou l'OMS.
Pour revenir, vous nous disiez que les violences conjugales commencent ou s'aggravent pendant pendant la grossesse. Est-ce que vraiment on peut décider pourquoi si Dieu vous disiez tout à l'heure que c'est peut-être le déclic.
Oui, alors en tout cas dans la grossesse c'est une transformation du couple aussi.
Oui aussi, voilà.
Où le couple passe de 2 à 3.
Oui. Alors donc si c'était que basé que sur un sentiment amoureux ou sur la passion, peut-être que.
Voilà, il y a aussi le fait que les femmes sont plus fragiles, peut-être, ou...
Au moment de la grossesse.
Voilà, que peut-être elles sont plus attentives à l'enfant qu'elles portent en elles, qu'elles sont aussi en demande de protection
et
d'amour.
Oui. Forcément, oui.
Voilà, que l'enfant peut être désiré ou pas. Enfin,
Oui, donc il y a un changement de
Il y a un changement de statut d'un couple qui passe de deux et qui s'élargit à une troisième personne.
Voilà, oui. Donc certains couples ne sont pas prêts à vivre cela.
Voilà.
En tout cas, ça peut toujours être un moment un peu de crise, mais après, ça se retrouve, l'équilibre se retrouve.
Voilà.
Un nouvel équilibre.
Alors, normalement, c'est un moment de bonheur
pour
le couple. Ça peut être un moment de questionnement, si l'enfant n'était pas prévu, par exemple, ou en tout cas de questionnement.
C'est nouveau, donc on se pose des questions.
Sur l'avenir, sur la sécurité de la famille, sur la pérennité du couple, tout ce qui est en lien avec l'engagement. Si le couple était en concubinage, par exemple, ou pas marié, sur l'engagement dans le mariage.
Ça pose forcément des questionnements, des... le bonheur, c'est première chose.
Et puis, c'est une étape d'engagement d'un couple aussi. Au-delà du mariage, c'est aussi un nouvel engagement du couple qui se transforme en famille.
Oui, oui.
Donc, c'est une étape d'engagement qui, avec toutes les angoisses, les questionnements que ça va amener.
Oui, bien sûr.
Et là, en l'occurrence, dans ce cas-là, avec la violence.
Oui. Alors, donc...
Encore quelques chiffres pour vraiment situer le niveau. Une femme meurt tous les 2,5 à 3 jours de violence conjugale. Ce qui est énorme.
Ah oui.
Homme tous les 14 jours et demi à peu près. Ce qui n'est pas négligeable non plus. Alors, pas forcément directement, mais d'une façon indirecte, donc y compris de suicide suite aux violences. Mais pour les hommes, on estime à un homme tous les 14 jours et demi des suites de la violence conjugale.
Donc c'est quand même
c'est vraiment un problème de société. Et d'ailleurs il y a une journée qui est au mois de novembre, je ne sais plus, autour du 22 novembre il me semble, sur la violence, la violence faite aux femmes plutôt. Mais
il y a aussi la violence.
En sachant qu'il y a aussi la violence faite aux hommes.
Alors, sur le plan de la loi, alors, comment agir et réagir ?
Alors, ce qui est important de savoir, c'est que la violence conjugale est réglementée et punie par la loi.
Quelle
que soit la forme qu'elle prend, qu'elle soit physique, sexuelle, psychologique, ou d'autres formes de violence, comme par exemple d'administrer des substances nuisibles. On peut mettre avant il y avait des gens qui essayaient de tuer à l'arsenic, par exemple, ou... Mais ça peut être des drogues, ça peut être n'importe quoi.
Ah oui.
Les appels téléphoniques aussi, malveillants. les nuisances sonores, les menaces, les entraves ou l'omission au secours. Voilà, ça. Et puis les tapages, les cris, les insultes, tout ça. Alors là, qui sont, il y a une graduation dans la loi qui va de la contravention au délit au crime. Donc
là, donc c'est quand même intime. Mais quand il y a des cris, des viols, enfin, l'entourage, ça peut dépasser l'entourage familial et le voisinage peut être.
Alors, le voisinage peut être conscient, il peut appeler la police parfois. Voilà, et à ce moment-là, en fonction de la gravité, ça va être soit une contravention pour tapage, soit un délit, s'il y a eu vraiment violence et par exemple des coups. Soit un crime si ça monte dans l'escalade, dans la violence.
Il vaut mieux avoir prévenu avant.
Alors, il vaut mieux prévenir avant et prendre les mesures le plus tôt possible. Ce qui est important aussi, c'est que la loi prévoit des mesures de prévention de prévention normale, par exemple l'éloignement de l'agresseur et l'interdiction de s'approcher, ou des bracelets
électroniques
pour vérifier que l'agresseur ne s'approche pas d'un périmètre autour de la victime, ou alors des mesures d'urgence pour protéger la victime et les enfants. Voilà, qui peuvent être l'expulsion de l'agresseur de l'appartement, le placement de la victime dans un lieu d'hébergement avec les enfants. Enfin, donc il y a tout un tas de mesures qui peuvent être prises soit au cours du processus légal, soit dans l'urgence s'il y a vraiment une situation d'urgence.
D'accord. Et les dépôts de plainte aussi
Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a un délai pour porter plainte qui varie selon la gravité entre 1 et 3 ans.
Il y a un délai pour porter plainte entre 1 et 3 ans.
Voilà. Une contravention, par exemple, ça va être de l'ordre d'un an. Si c'est un délit, en fonction de sa gravité, ça peut monter à 3 ans de délai.
D'accord.
Mais ce qu'il faut savoir aussi et qui est important, c'est que dans le droit français, il est indispensable de disposer de preuves sur la réalité des violences subies. Alors, quand c'est des violences physiques, ça va être un certificat médical, des témoignages. Et quand la plainte a été déposée, la justice continuera son œuvre.
Oui.
Son œuvre.
Oui, son œuvre.
Ou son cours, même si la personne retire la plainte après. C'est-à-dire à partir du moment où il y a une plainte pour violence conjugale ou violence physique, même si la personne revient en arrière, la justice continuera son cours, justement parce que c'est réprimé par la loi.
Donc savoir si vraiment... Parce que la victime, elle peut retirer aussi pour penser que... Il y a une sorte d'hésitation. Alors, parfois.
Il peut y avoir, on verra à quel moment, il peut y avoir hésitation entre déposer la plainte ou la retirer. Ça fait partie du cycle de la violence, d'ailleurs. Et puis, parfois, ça peut être aussi... je crois que cette mesure, elle est aussi parce que faut que ça soit justifié, en fait. Et donc, à partir du moment où il y a le dépôt de plainte, la justice va au bout de la démarche, d'abord pour protéger la victime, et ensuite pour valider en quelque sorte la plainte. Voilà, l'auteur ou l'agresseur supposé peut lui aussi déposer plainte.
Ah oui, mais pour dire quoi? Pour dire alors, pour s'excuser, enfin pour
pas pour s'excuser, non, pour, parfois pour dire que
c'est
que
faux,
c'est
quoi.
Faux, ouais. Donc pour calomnie, enfin
oui oui d'accord,
ou pour dire qu'il est lui-même victime et qu'il a reçu aussi des coups par exemple. Donc on voit que c'est pas si simple que ça. Sauf vraiment s'il y a des témoins, s'il y a des certificats médicaux. Là, c'est beaucoup plus clair.
Donc, il faut quand même essayer de se faire aider, de se faire conseiller.
Voilà, c'est important d'être conseillé dans ces démarches.
Et en cas de... Oui.
Voilà, et en cas de violence physique...
Physique, oui. Enfin, comment on procède alors?
À la fois de déposer plainte au commissariat ou à la gendarmerie, mais surtout de faire constater par un médecin ou un service hospitalier. Et il y a notamment des urgences médico-judiciaires qui, alors là, pour le coup, qui sont vraiment spécialisées, mais déjà un médecin traitant ou les urgences à l'hôpital. De faire constater les coûts, le préjudice, avec une évaluation de l'ITT, donc de l'incapacité temporaire de travail, qui est finalement un moyen de chiffrer ce qui s'est passé, quoi. C'est un peu quand on a un accident, quand on est malade, et aussi pour la violence, c'est une évaluation du préjudice, en fait.
Et donc ça, c'est pour les violences physiques. Bon, voilà, c'est on peut constater, mais en cas de violence morale et psychologique, alors.
Alors, souvent, c'est plus difficile à prouver parce que il y a rarement des témoins. Alors, parfois, les voisins peuvent entendre et dans ce cas-là peuvent témoigner ou de la famille ou. Ça peut se faire aussi à partir des échanges de, je sais pas, de mots, de courriers, de SMS. Dans ce cas-là, faut les garder pour démontrer qu'il y a bien une violence psychologique. Ça peut se faire aussi avec un certificat médical ou un certificat d'un psy qui pourra constater la souffrance psychologique de la victime. Et parfois même un état de stress post-traumatique.
Un grand merci, Pascal Parinet. On va écouter tout de suite. Bien sûr, nos auditeurs sont invités à nous rejoindre au 01 56 56 44 00. On écoute Julie Zenati. Et voilà, Si je m'en sors, c'est le titre de ce chant.
De Notre-Dame.
Je ne connais pas le plus dur, je n'ai pas vraiment. histoire, ce qui me touche, c'est qu'il n'y a rien à regretter. Quelques silences au fond de moi, il y a des silences et c'est comme ça. Et si je m'en sors, sans bleu encore, être normal pour être bien, effacer quelques lignes de ma main. Et si je m'en sors, je veux encore sentir la chaleur de ce beau matin, ensemble alliés contre un drôle.
Zenati, si je m'en sors. Alors, nous parlons bien sûr des violences conjugales, hein, femmes ou hommes, hein, tout, plus souvent les femmes, bien sûr, mais les hommes aussi, il y a
oui,
pas mal.
Les deux sont concernés. Oui. Alors,
on peut se demander quand même où commence la violence conjugale.
Voilà, et surtout, faut la distinguer des disputes et même des crises de couple.
C'est encore autre chose.
Qui est encore autre chose, mais parce qu'il arrive à tous les couples de se disputer. Et vu de loin, ça peut avoir des aspects un peu violents, une dispute, par exemple, quand il y a de la colère. Et puis, alors, dans un couple en crise, c'est encore plus fréquent. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est de la violence conjugale.
Ah oui, bien sûr, oui.
Voilà, il peut arriver que les conjoints, à un moment, ne se supportent plus parce que leur mode de fonctionnement ne convient plus, par exemple, qu'ils se critiquent, même qu'ils se détestent pendant un certain temps. Mais ça pas pour autant dire non plus que ça soit de la violence psychologique.
Oui.
Alors, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'informations sur tous ces sujets. Alors, en même temps, c'est important de le dire parce que c'est vraiment un fléau national, mondial. Hein.
Oui.
Voilà. Mais si elles sont mal comprises, ces informations-là, alors, par exemple, on entend de plus en plus dire « mon conjoint est un pervers » ou encore « j'ai peur que mon ex-mari fasse des attouchements aux enfants », alors que le couple avant, ça se posait pas en ces termes-là. Ça, c'est autour des divorces.
Oui, c'est ça, et des informations qu'on peut entendre, et donc c'est...
Voilà. Et du coup, là, on va retrouver tout un tas de fantasmes qui peuvent parfois exprimer une angoisse réelle et justifiée, mais aussi parfois le moyen d'évacuer l'autre qu'on n'a plus envie de voir, ou encore même de le priver de la garde des enfants. D'une façon violente.
Et, oui, c'est ça, oui.
Donc, c'est important de distinguer la violence conjugale de ce que serait une relation qui présenterait une pathologie, mais d'une autre forme que la violence. Parce qu'il y a quand même une frontière entre les deux. En même temps, la violence conjugale, elle est facilement reconnaissable dans les violences physiques, dans les violences sexuelles, parce que là, il n'y a pas de doute. C'est un peu moins évident pour les violences psychologiques où ça peut se mêler. On peut croire qu'une colère, qu'une dispute, qu'une crise de couple soit de la violence. Alors ça peut paraître violent, c'est pas tout à fait pareil.
Mais alors comment? Oui, on va différencier. Il faut différencier, oui.
Ben, dans la violence, d'abord, l'autre n'existe pas, mais va être en quelque sorte un objet sur lequel va se déverser tout le mal-être de l'agresseur et sa haine. Donc, finalement, la violence, elle vient remplacer des mots qui n'arrivent pas à se dire. Ou qui peuvent pas se dire, mais surtout c'est l'expression d'une pulsion destructrice et donc de la haine, ce qui est différent de la colère.
Oui.
Là, dans la violence, il y a une volonté, il y a vraiment la volonté de faire mal ou de détruire, ce qui est caractéristique. Dans la colère, bon, la personne peut s'emporter.
Oui.
Mais elle n'a pas forcément la volonté de faire mal ou de détruire à l'autre.
Et puis ça passe, enfin.
Et ça passe.
C'est passé une fois.
Voilà. Et le point de basculement, il est vraiment à ce niveau-là, avec la haine et la volonté de faire mal ou de détruire.
Il y a vraiment une pathologie quand même dans la violence.
Alors, il y a, c'est pathologique.
Oui,
hein. C'est pathologique. Au plan individuel, mais au plan aussi de la relation de couple.
Et la relation aussi est pathologique.
Et la relation est aussi pathologique.
Alors, comment on va différencier alors par rapport à la colère
C'est vraiment cette volonté, d'abord l'aspect pulsionnel. La colère, c'est une émotion, c'est pas une pulsion.
Ah, oui.
Alors ça, c'est... je dirais, la personne en face, elle a peut-être du mal
à discerner
la différence, mais c'est pas la même chose. Et puis, la destructivité, la colère, c'est une émotion qui s'exprime.
On peut casser un objet, on peut...
Voilà, la violence est vraiment faire mal, détruire la personne.
Oui, oui.
Que ce soit avec des mots ou avec des coups. Et l'exercice d'un pouvoir dans la colère, il n'y a pas forcément volonté d'exercice d'un pouvoir sur l'autre. Alors, peut-être il y a là, on peut mesurer des colères où on exprime son mécontentement. Et puis des colères où la personne chercherait à avoir un pouvoir sur l'autre. Et là, il y a vraiment la différence entre l'émotion et la violence. On est vraiment dans user d'un pouvoir ou abuser d'un pouvoir plutôt sur l'autre.
Mais ça, c'est... Alors, le lien avec le pulsionnel, c'est de l'ordre...
Oui, alors c'est différents aspects peut-être pour se repérer quand la colère ou ce qui ressemble à la colère parce que c'est plutôt de l'ordre de la pulsion quand c'est l'exercice d'un pouvoir sur l'autre.
Oui.
Là, on est dans le pulsionnel et dans la violence et quand avec bien sûr l'aspect destructeur. Voilà.
C'est quand même complexe, hein, c'est un sujet complexe.
Alors, on pourra rajouter, mais on verra dans le cycle de la violence, c'est que c'est aussi une pathologie structurelle de la relation de couple. C'est-à-dire que finalement, les deux ils participent. Alors, pas de la même façon, pas au même niveau. Bien sûr, il y a un agresseur, il y a une victime, mais les deux... sont en quelque sorte mis dedans.
Malgré eux, enfin qu'on s'entend quand même, mais il y a quelque chose d'inconscient.
On
ne
peut pas
aussi
dire que la victime soit consentante, mais elle y participe inconsciemment, malgré elle. et on verra par quel mécanisme.
Oui.
Voilà, et du coup, c'est un sujet, alors on va mettre un peu en cliché après, mais c'est un sujet qui implique des dynamiques à la fois individuelles et de couple, et c'est plus complexe que ça n'y paraît, ou tous les discours qu'on peut tenir dessus.
Et vous disiez une façon structurelle, c'est-à-dire de la structure de la relation
de couple. Voilà, c'est pour ça que une fois que la violence a vraiment démarré, faut abandonner l'espoir de changer l'autre.
Ouais.
Hein? Une personne qui subit des violences dans son couple, faut pas qu'elle ait l'espoir de changer l'autre et que ça va, parce que c'est structurel. Alors peut-être que l'autre peut accepter de faire une thérapie et à ce moment-là il va changer.
Oui,
hein? mais pas dans le couple.
Oui.
C'est pas la victime qui, par son amour ou par je ne sais quoi, ou par sa soumission, va changer l'autre. C'est soit l'agresseur fait une thérapie, et peut-être il va changer. Sinon, ça ne changera pas. Ou une thérapie de couple, mais...
Oui. Donc, la plupart des cas, la violence conjugale, c'est discernable par un aspect destructeur.
Voilà. La volonté de nuire.
Oui.
Que ce soit sur le plan physique ou psychologique. Et le pouvoir. Le pouvoir de domination qu'exerce l'un des deux.
Ah oui. Alors... Est-ce qu'on peut discerner un processus dans la façon dont la violence s'installe ?
Oui, elle suit un cycle, en fait, qui va se répéter. En tout cas, quand ce n'est pas un événement ponctuel. Mais quand même, il faut se méfier des événements ponctuels parce qu'ils peuvent se répéter et entrer dans le cycle. D'abord, elle s'accompagne d'une emprise progressive sur l'un des conjoints.
Oui.
Ce qui va générer des sentiments d'impuissance chez la victime et surtout de la peur. Et du coup, progressivement, il y a une prise de contrôle sur l'autre qui s'installe.
Parce qu'il y a une soumission, une domination-soumission.
Oui, on est vraiment dans la domination et le contrôle de l'autre, qui est une forme de domination. Voilà, mais une domination qui contrôle. L'autre devient l'objet contrôlé par l'agresseur.
D'accord.
Alors, mais ça s'installe progressivement, ce qui rend souvent difficile sa perception au début, en tout cas, tant que ça n'a pas atteint un certain seuil. Voilà, mais ça, à ce moment-là, ça rentre dans un cycle en quatre phases qui va se répéter et s'intensifier au fur et à mesure du...
Quatre phases, on a bien...
Discerner, oui.
C'est-à-dire, alors, par exemple.
Alors, la première phase, ça va être une phase de tension, où l'agresseur ou la personne violente va faire sentir à l'autre qu'il ne correspond pas à ce qu'il faut, en gros. Alors, ça peut être par des regards, ça peut être par des silences, ça peut être par des reproches, par des colères. En tout cas, la tension, qu'elle soit exprimée par des mots, des regards ou par des silences, la tension va monter et ça se sent physiquement même. Et puis la victime, elle va se soumettre en quelque sorte pour essayer d'apaiser le partenaire et les tensions. Elle va commencer à ressentir de la peur ou de l'angoisse. D'autant plus que la violence est souvent imprévisible et qu'elle ne sait pas à quel moment ça va éclater. Elle pressent que ça peut éclater, mais elle ne sait pas quand. Et donc, elle va tout faire pour éviter la crise. Elle va se paralyser. ce qui va renforcer finalement l'agressivité de l'autre.
Ah oui.
C'est-à-dire plus la victime va être dans la peur, dans la paralysie, dans la soumission, dans l'évitement, plus elle donne de pouvoir
prise, oui,
à l'autre et
oui.
plus il va être agressif.
Un grand merci Pascal Parinet. Je rappelle le téléphone à nos auditeurs, 01 56 56 44 00. Ce soir nous parlons des violences conjugales, comment en sortir et retrouver une liberté intérieure. Nous nous retrouvons dans quelques instants, tout de suite après 23h.
Radio Notre-Dame.
Dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Voilà, ce soir, nous sommes en compagnie de Pascal Parinet, psychanalyste, gestalt-thérapeute et formateur en relations humaines. Et donc, nous parlons de violence conjugale ce soir. Est-ce que vous avez... Je sais pas,
alors,
une session
on a un stage sur la dépendance affective, mais on verra qu'il y a quand même un lien lointain avec la dépendance affective, parfois pas si lointain que ça d'ailleurs, parfois proche, les 24 et 25 mai, fin mai quoi.
Oui.
Et on a un stage sur, alors, sortir de la violence, du harcèlement, donc que ce soit professionnel, que ce soit familial, conjugal ou autre, au mois de juin ou juillet. Je crois que c'est en juillet. Voilà. Et pour avoir les renseignements, le téléphone, c'est le 06 60 15 79 60
06 60 15 79
60 ou ifpsy.com.
Voilà pour tout renseignement.
Voilà. Et sur la violence conjugale, je peux donner deux sites. Un site, donc violence conjugale. Donc www.violenceconjugale au pluriel.
Pluriel, tout attaché, non ?
Tout attaché au pluriel. Point Paris.
Point Paris, oui.
Et un autre, homme maltraité.
Homme au pluriel, maltraité, tout attaché.
Au pluriel, tout attaché, point com.
Maltraité, point com. Voilà. Donc, vous évoquiez que la violence, qu'on peut, le processus de la violence, qui s'installe par cycle. Il y a un cycle. Alors,
oui.
Le premier, c'est
voilà,
la tension.
La tension qui se ressent physiquement, mais qui s'installe au travers des regards, des gestes, des attitudes, des paroles ou des colères. La deuxième étape, c'est l'explosion. Donc, quand la tension arrive à un maximum, eh ben, c'est l'explosion de la violence. Finalement, où l'agresseur va laisser éclater sa violence et prendre le pouvoir sur l'autre et le dominer. Ce qui amène à la phase suivante qu'on verra. Et c'est le moment où la victime va se sentir humiliée, elle va se sentir triste, elle est intérieurement démolie, y compris dans son estime d'elle-même, dans sa confiance en elle. Et surtout, elle ne peut pas exprimer une légitime colère à cause de la peur, parce que la réaction naturelle face à la violence, c'est de se mettre en colère et de se défendre.
Oui, et c'est sain, ça permet, voilà, enfin, quelque part.
C'est une réaction naturelle, saine.
Oui. Mais voilà. Justement, la peur, elle empêche.
Mais là, la peur paralyse. Et en général, c'est à ce stade que la victime arrive à déposer plainte.
Alors après, donc il y a
la troisième étape, ça va être le retour au calme et la justification. Autrement dit, la personne violente a défoulé en quelque sorte sa pulsion et redevient calme. Alors, c'est le moment où il va minimiser ses actes, trouver des excuses, se justifier, nier l'étendue de la violence, ou même culpabiliser la victime en disant que c'est elle qui a provoqué, que...
Ah oui, oui.
Voilà,
Il retourne la situation.
Alors, côté victime, elle sort de la peur et de la paralysie. Elle va essayer de cacher les conséquences de la violence et de prévenir une autre crise. Alors c'est comme ça que, par exemple, des femmes battues mettent des lunettes de soleil pour cacher ou du maquillage pour pas que ça se voit. Alors, elle reste quand même malgré tout ambivalente vis-à-vis de son partenaire, mais elle va se culpabiliser. Douter de ses perceptions, c'est-à-dire remettre en cause ce qu'elle ressent.
Ah oui.
Et espérer mieux gérer la prochaine fois. Donc, voilà, elle est dans la prochaine fois, je ferai attention, par exemple.
Donc elle attend une prochaine fois.
Oui.
S'y attend. Et donc ça, c'est la troisième phase.
Voilà, la quatrième, c'est la réconciliation. Donc, où le partenaire violent va tenter de faire oublier sa violence, il va être attentif, il va demander pardon, il va faire des promesses de ne pas recommencer, il va supplier même. Voilà. Ce qui va faire croire à la victime que finalement, il est moins violent qu'il n'y paraît. Ou moins violent que les coups qu'il a donnés.
C'était une erreur.
Voilà, qu'il est attentif, que ça ne va pas se reproduire et peut-être même qu'il l'aime. Hein? Ça, c'est vraiment une question des victimes, c'est mais est-ce qu'il m'aime ?
Ah oui.
Voilà, et dans ce moment de réconciliation, elle va croire à nouveau, s'il s'agit d'une femme, ou il va croire si c'est un homme, que son partenaire l'aime.
C'est vraiment le besoin d'être aimé qui fait que la personne
voilà,
accepte
et du coup, elle va nier la violence. elle va en arriver progressivement à nier la violence. Et c'est à ce moment-là qu'elle risque de retirer sa plainte.
Ah oui.
Voilà. Et alors, ce sont des phases qui vont se reproduire d'une façon crescendo, c'est-à-dire que ça va monter en rapidité,
oui,
de plus en plus fréquent.
Après, le cycle recommence.
Et en intensité dans la violence.
Merci, Pascal Pariné. Donc, nos auditeurs sont invités à nous rejoindre et on écoute tout de suite Cathy qui est en ligne. Bonsoir, Cathy.
Bonsoir, Chantal. Bonsoir, Pascal Pariné.
Bonsoir.
Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit, parce que ça m'a fait... Enfin, en même temps, c'est dur pour moi, parce que, voilà, j'ai vécu pendant 40 ans avec un homme qui ne m'a jamais respectée et qui, je ne sais pas si c'est un pervers narcissique, je ne suis pas... Je peux pas poser un diagnostic là-dessus, mais en tout cas, il s'est toujours très mal conduit et j'en suis partie au bout de 40 ans.
Ouais.
Et là, je vis dans une... Enfin, un noirdon ou une haine, je ne sais pas comment ça peut s'appeler, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à. J'ai fait en partant, j'ai fait des séances d'hypnose pour essayer un peu de parce que j'étais un peu parano et bien sûr j'étais pas bien du tout en partant parce que comme vous disiez il y a eu un moment de violence, je suis devenue violente parce que j'étais à bout,
ouais.
parce que je l'ai j'ai tout essayé pour essayer de lui faire comprendre les choses, j'ai conseiller conjugal, session pour le couple, enfin j'ai tout essayé et quand je suis partie, il a dit que je lui avais jamais rien expliqué, jamais rien dit. Et donc ça m'a j'étais hors de moi et j'arrive pas à lui pardonner quoi, j'arrive pas, j'ai une haine et c'est vrai et j'en suis arrivée à la violence. C'est pour ça que je suis partie, parce que je ne le supportais plus.
Ouais, ouais. Alors, je vais dire deux choses. D'abord, je pense pour les problématiques comme ça de violence conjugale, je pense que c'est la psychothérapie. Les retraites pour couple, même les conseillers conjugaux qui travaillent essentiellement sur la communication, ça résout pas des problèmes de violence conjugale. Faut vraiment.
Ils ont vraiment pas. Je sais pas s'ils ont vu, mais j'ai vécu ça très très mal, quoi. Cette session pour le couple, j'ai vécu très très mal.
Oui, et puis on est face à des phénomènes pulsionnels, et là c'est vraiment de l'ordre de la thérapie et pas d'un accompagnement de conseil ou.
Lui, il ne se fera jamais soigner, il ne se remettra jamais en question.
Ouais. Voilà, mais même pour la personne victime, je pense
se faire aider,
mais aussi en thérapie pour vraiment percevoir les mécanismes. Enfin, on va en parler après.
C'est très intéressant parce que ce que vous dites, ça me parle vraiment, quoi.
Ouais.
Vraiment.
Et après, le pardon, ça demande du temps parfois de pardonner. Quand il y a eu vraiment de violence, vraiment de la violence, et 40 ans en plus duré, c'est pas rien.
Oui, enfin, c'est pas de la violence physique, hein, parce qu'il était gendarme. Donc,
oui, mais ça peut être verbal.
Il savait très bien ce qu'il devait faire et pas faire. Hein,
voilà.
C'est clair. Donc, mais ça a toujours été de la violence verbale, quoi.
Voilà. Et là, je pense, quand ça a duré longtemps comme ça, faut se faire aider, faut faire une psychothérapie.
Oui, vous pensez.
Oui, l'hypnose, c'est...
L'hypnose va aider, hein. Ça, je peux dire que j'ai fait une séance d'hypnose, m'a beaucoup aidé.
Voilà, ça aide beaucoup, ça aide un peu par rapport aux angoisses aussi. Vraiment, pour sortir de la haine, de la rancœur et accéder au pardon, je pense qu'il faut vraiment faire une thérapie en profondeur.
Moi, j'ai peur de ça parce que moi, j'étais voir un psychiatre et il m'a dit quand on veut abandonner son chien, on dit qu'il a la rage. Alors, ça m'a un peu refroidi, franchement.
C'est pas un psychiatre qu'il faut voir.
Mais c'est pas un psychiatre, hein. C'est soit un psychanalyste, soit un psychothérapeute.
Je crains. Je suis un peu réticente parce que il faudrait que je trouve la bonne personne.
Bah oui, il faut trouver.
C'est évident.
Oui, oui.
Bah, pas évident
faut chercher.
Parce que je suis trop. J'ai eu trop de choses trop dures et ouais. J'accepterai. Enfin, j'arriverai pas à.
Mais voilà. Vous faites un essai puis vous arrêtez si ça va pas.
Vous voyez,
tout de suite.
Mais j'ai envie. Oui, il y a deux choses. D'abord, vous avez fait des séances d'hypnose, qui est une technique de psychothérapie. Voilà, par rapport à une problématique qui a duré pendant des années, je pense qu'il faut aller plus en profondeur et faire quelque chose dans la durée. Mais vous avez bien eu le courage de faire des séances d'hypnose. Bah de la même façon, ça peut être pareil pour une psychothérapie plus profonde. Et après, demander à des amis, à votre médecin, s'il connaît quelqu'un.
Bah pour l'instant, je suis retournée dans ma région qui est l'Alsace, et je ne sais pas si vous auriez.
Moi,
quelqu'un à me conseiller en Alsace.
Je connais pas personnellement, mais demandez à votre entourage. Peut-être que ça marche beaucoup par le bouche à oreille.
Voilà. C'est sûr.
Et puis voyez la personne. Si vous vous sentez en confiance et si vous sentez que le courant passe, vous pouvez y aller. Si vraiment vous sentez pas, à ce moment-là, vous allez voir quelqu'un d'autre pour. Faut qu'il y ait un contact.
Oui,
un feeling.
Bien sûr.
Mais c'est pas un psychiatre, hein.
Pas un psychiatre.
Oui, non, mais j'avais été voir un psychiatre.
Oui, mais c'est pas la bonne porte.
Avant de me séparer, hein.
Oui.
Mais voilà. Mais c'était vraiment, voilà. J'avais vraiment mal vécu ça.
Voilà, c'est. Vous avez la direction.
Voilà, et puis prier aussi pour pardonner.
Oui, bien sûr, oui, mais j'arrive pas à prier pour lui, hein. J'arrive
voilà.
Pas.
Mais non, priez pour vous, parce que vous savez, le pardon, c'est aussi d'abord pour soi, parce que tant qu'on vit dans la haine, on n'est pas dans la paix, on n'est pas dans la joie, dans le bonheur, donc faites-le aussi pour vous.
D'accord.
Voilà,
merci.
Cathy.
Merci beaucoup, Chantal.
Courage.
Merci, Pascal.
Bonsoir.
Merci beaucoup. Bonsoir.
Nous écoutons Cécile. Bonsoir, Cécile.
C'est moi, bon.
Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Je vais poser une question peut-être qui va vous paraître un petit peu abrupte. À la première violence physique, je dis bien physique, est-ce que la femme peut répondre immédiatement et de la même façon? C'est-à-dire, si tu cognes, je cogne. Alors là, je crois que c'est un moyen efficace pour dissuader l'agresseur.
Ou pour faire monter la violence. Ou pour faire
Personnellement, je ne pense pas.
Moi, je crois que avant même la première violence physique, dès que ça commence à dériver verbalement ou dans l'attitude, avant que la violence, parce que on a vu qu'il y a la première phase, qui est la phase de tension. Avant la première, avant la violence physique, il faut poser les limites et se faire respecter avant.
Oui.
De la même façon, à la première violence physique, il faut absolument là poser des limites très fermes. Se faire respecter, mais d'une façon irrévocable. C'est-à-dire, c'est ça ou c'est la plainte et la prison, hein, puisque aujourd'hui, peut-être un bracelet, peut-être pas la prison ferme, mais en tout cas, c'est puni par la justice. Voyez, il faut pas accepter. La violence physique, répondre à la violence par la violence. En général, ça fait plutôt monter crescendo et c'est le plus fort physiquement qui aura raison, quoi. Alors,
vous savez, s'il y a des hommes qui, quand ils voient qu'il y a une défense, disons, devant leur violence, ils se calment quand même. Hein.
Une défense, mais
une défense, c'est-à-dire une Oui, une défense.
Oui, de
passer. On ne subit pas.
Voilà. Alors là, je suis d'accord avec vous, mais c'est de se positionner et de se faire respecter. C'est pas forcément de rendre des coups. Vous voyez?
Vous pouvez c'est dans ces cas-là.
À partir du moment, mais c'est vrai, entre hommes, vous savez, les hommes, ils sont un peu coqs, ils veulent jouer au plus fort. Si y en a un qui met un coup et que ça répond par des coups, ça fait crescendo. S'il y en a un qui se positionne, qui se fait respecter d'une façon calme mais très ferme, ça arrête la violence. Vous voyez? Et du coup, répondre par des coups, c'est entrer dans la violence. Et donc, alors là, c'est y participer aussi pleinement. Je pense que la véritable solution, c'est d'abord de réagir avant qu'il y ait violence et de se faire respecter d'une façon ferme, de se positionner clairement face à l'attitude de l'autre. Et à ce moment-là, l'autre, en principe, se calme ou arrête ou peut toujours dire quelques mots, mais en tout cas, ça va s'arrêter. Et si ça ne s'arrête pas, à ce moment-là, il faut vraiment prendre des mesures.
Voilà, Cécile.
D'accord.
Merci de votre question. Merci. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. On va écouter tout de suite Serge Lama, « Je t'aime à la folie ».
Radio Notre-Dame.
Aussitôt que l'on chante, c'est déjà qu'il fait beau. Tous les mots qu'on invente, on les vole aux oiseaux. C'est déjà que l'on pense au début de sa vie, que ce sera jamais, jamais, jamais fini. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Aussitôt que l'on rêve, c'est déjà qu'on est deux. Aussitôt qu'on en crève, c'est qu'on est amoureux. C'est déjà que l'on pense avec mélancolie, que ce sera bientôt, bientôt, bientôt fini. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie.
Alors, oui, nous parlons des violences conjugales ce soir. Comment en sortir? Alors justement, est-ce qu'on peut parler, de pathologie, oui, hein, chez l'agresseur, de ce cycle infernal de violence? Comment en sortir?
Ben, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les victimes ont peur, elles ont honte, elles se sentent coupables et elles sont souvent seules à cause de la honte et de la culpabilité.
Oui.
Alors, tous ces sentiments sont normaux. Ça fait partie, j'ai envie de dire, du processus, malheureusement. Ce qui est pas normal, c'est la violence. Mais du coup, elles vont présenter des troubles psychologiques comme la perte de l'estime de soi, l'incapacité à se positionner, voilà ce que j'expliquais
à Cécile. Oui.
À Cécile. L'ambivalence vis-à-vis du partenaire, c'est-à-dire elle l'aime et le déteste tout à la fois. Elles se sentent coupables souvent de l'échec du couple ou coupables vis-à-vis des enfants. Elles craignent de ne pas s'en sortir, par exemple financièrement, si elles se séparent, ou elles craignent de se retrouver seules et de ne pas s'en sortir. Et surtout, elles s'isolent de plus en plus. Voilà, et tout ça, ça peut aller jusque, bien sûr, des dépressions, ce qui est là le plus fréquent, mais aussi des états de stress post-traumatique, et puis parfois des suicides ou des drames.
Alors, comment la victime peut-elle sortir de cette situation, alors ?
Alors, la première chose... c'est de prendre conscience, de reconnaître que c'est une situation de violence conjugale avant que ça devienne trop important. Parce que plus la personne attend, plus c'est difficile de sortir de l'emprise. Et donc, si le conjoint insulte, critique, humilie de plus en plus... s'il bouscule la personne, si la personne a l'impression de ne plus le comprendre, que c'est plus la même personne par rapport à ce qu'elle a connu au début, s'il devient jaloux d'une façon injustifiée, s'il veut l'empêcher de sortir, si la personne se sent perdue, si elle ne sait plus trop quoi dire, quoi faire avec son conjoint. Voilà, si elle ressent de l'angoisse quand elle rentre chez elle. Tout ça, c'est signe qu'il y a de la violence.
Bien sûr, oui.
Et donc, ça veut dire que c'est le moment de faire quelque chose. Et en même temps, faut pas sous-estimer l'emprise que peut exercer une personne violente.
Une emprise de quel ordre ? Affective ? Psychologique,
affective, oui. Entre guillemets, je ne sais pas si... Mais
oui.
En tout cas, psychologique. Oui. Et en perdant l'estime de soi, la personne va devenir de plus en plus dépendante aussi.
Ah oui.
Donc, il est temps de réagir et de faire quelque chose. Alors, la première des choses, c'est de sortir du silence.
Sortir du silence, c'est la première chose, voilà.
Voilà. Et alors, c'est difficile parce que ça veut dire de dépasser la honte pour pouvoir parler. Et c'est pas facile parce que la victime a honte de dire que son couple ne va pas. Elle a honte de dire qu'elle subit des violences. C'est vrai pour les femmes, mais c'est encore pire pour les hommes.
D'avoir honte.
Dire que leur femme les maltraite ou les bat.
Et puis ils sont peut-être pas crus.
Et en plus, ils sont pas crus, déjà au départ, il y a une honte très importante.
Ben oui.
En tout cas, il s'agit de sortir de l'isolement parce que la violence, très souvent, elle se vit dans le secret. Et donc, le seul moyen, c'est d'en parler.
Mais alors, à qui ?
Alors, peut-être à des amis qui pourront soutenir, ou à la famille, bien que ça ne soit pas la meilleure solution, parce que souvent, les amis, la famille connaissent le conjoint, ont une certaine image de lui qui correspond sûrement pas à ce que la personne vit, justement parce que la violence, elle est dans l'intimité, elle est cachée. Ils peuvent aussi vouloir préserver la famille ou les enfants, voilà, de dire, bah, écoute, supporte, dis rien, enfin...
Donc, ce ne sont pas les mieux placés.
Et du coup, en tout cas, tant que la personne, la victime voit pas très clair dans ce qui se passe, il vaut mieux s'adresser à des personnes neutres, donc à des professionnels qui pourront avoir un regard objectif. Donc, à mon sens, la meilleure solution, c'est quand même de voir un psy qui pourra répondre aux questionnements et puis qui pourra donner des outils, des moyens, pour en sortir, avec en plus la garantie de la confidentialité de tout ce qui se dit, voilà, qui protège la personne tout en lui permettant de trouver. Et puis après, il y a des associations aussi, il y en a un certain nombre qui peuvent aider. À mon sens, ça n'empêche pas de voir un psy pour faire une psychothérapie.
Plus profonde, pour
traiter
clair,
vraiment en profondeur le problème.
Et pour pas que ça se reproduise, voilà. Pour essayer d'enrayer, oui. Alors, sortir du silence, et puis ensuite, alors, quand on...
Alors, comprendre les mécanismes, on a parlé du cycle de la violence, qu'il est nécessaire de comprendre sa mise en place, et sur quel mécanisme, à la fois individuel et relationnel, il repose. Et on a vu qu'il y a la peur, l'emprise, la dépendance affective, le silence. Tout ça, ce sont des facteurs qui favorisent la violence conjugale. Et donc, il faut régler, niveau déjà individuel. Et ça, ça se fait avec l'aide d'une psychothérapie.
Et lorsqu'on a pris conscience des mécanismes, alors...
Alors, bah, déjà, ça permet de sortir de la peur, parce qu'il y a une compréhension qui fait qu'on ne subit plus, on a une distance, on est moins victime. Progressivement, la personne sort de sa position de victime, et donc elle va sortir de la peur, voir qu'il y a d'autres réponses possibles.
Même si c'est difficile, souvent.
Alors, je dis pas que c'est facile.
Oui, oui, bien sûr.
Mais c'est bien pour ça que...
Qu'il faut se faire aider.
Qu'il faut se faire aider, d'ailleurs. Mais en tout cas, à partir du moment où la personne arrive à gérer au moins sa peur et au mieux à en sortir avec l'aide de la thérapie, il va être possible pour elle d'agir et d'en sortir.
Elle va traverser les émotions de la peur.
Voilà. La culpabilité aussi. Parce qu'on a parlé de la honte, mais la culpabilité, c'est aussi un sentiment très présent.
Qui paralyse, oui.
Qui paralyse. Alors, d'abord, celle générée par les reproches du conjoint. Souvent, il y a des dénigrements, des reproches, des insultes, et elle va se sentir coupable. Celle de ne pas arriver à gérer la relation ou pas arriver à sauver son couple. Celle vis-à-vis de la famille, les parents ont réussi leur couple, la personne se retrouve en échec, à se sentir coupable par rapport aux parents, elle va se sentir coupable par rapport aux enfants. Et puis, souvent, la culpabilité, c'est aussi un retournement d'une colère contre soi, parce qu'elle ne peut pas s'exprimer, justement, à cause de la violence. Et du coup, en sortir va permettre de se positionner, non pas en coup pour coup, ou dans la loi du talion de tout à l'heure, mais d'une façon saine et positive.
Alors, prendre conscience alors
de ses attitudes, les émotions, la colère refoulée, la culpabilité, tout ça, ça implique des attitudes qui vont renforcer le pouvoir du partenaires violents et surtout qui vont renforcer son agressivité. Hein, ça,
oui, oui.
Pendant la première phase de tension.
Mmh, on voit, oui, c'est ça. On voit ce qui va favoriser l'agressivité et la faire monter de l'autre, oui.
Et en prenant conscience de ces attitudes, de comment on réagit finalement face à la violence, à ce moment-là, il est possible de changer soi-même ses attitudes, de changer la relation, ou de se séparer. Parfois, hein, parce qu'il y a des fois,
il y a que
cette solution-là. Quand il n'y a pas de changement possible, ou si le conjoint violent ne veut pas entreprendre de thérapie et qu'il continue à rester dans la violence, mais il y a
c'est
un
souvent
moment,
le cas. Hein,
le cas, et il y a un moment, il vaut mieux se séparer.
Alors, comment peut-on en arriver là, à laisser l'autre avoir une telle emprise?
Alors, souvent, il a été idéalisé au départ. C'est-à-dire, dans la phase amoureuse, le partenaire a été idéalisé. Et finalement, la victime conserve cet idéal-là. Et il faut donc descendre le partenaire de son piédestal du départ. Et puis, elle continue à garder l'espoir d'un amour possible, ou, suivant les cas, de sauver l'autre de son mal-être. Mais le problème, c'est que dans la violence et dans l'emprise, il n'y a pas d'amour, et qu'il n'est pas possible de sauver l'autre de son mal-être. Il n'y a que lui ou qu'elle qui peut faire ce chemin, alors avec l'aide d'un psy, mais on ne peut pas sauver les autres.
Non, c'est ça. Il faut que la personne, dans sa liberté, ce qu'elle en a, un peu décide.
Ce qui veut dire de renoncer à cette image idéale de l'autre qui est une fausse image.
C'est pas la réalité.
Une projection qui n'est pas la réalité. Et puis de renoncer à le changer, que ce soit grâce à son amour ou grâce à sa soumission ou par quelque moyen que ce soit.
Oui, on peut penser changer l'autre par sa soumission.
En disant rien, c'est-à-dire la personne espère que si elle dit rien,
que l'autre
se mettra moins en colère et sera moins violent.
Mais c'est une illusion.
Voilà, mais c'est une illusion. Voilà. Mais ça veut dire de prendre conscience de sa dépendance affective, parce que finalement, quand l'autre est complètement idéalisé, il y a une dépendance affective et des impasses auxquelles ça mène, comme on a vu dans, je sais plus, une émission assez récente.
Oui, oui, c'est ça. Alors, comment se reconstruire aussi, alors?
D'abord en prenant soin de soi, ou en apprenant à prendre soin de soi, à se respecter, et à se faire respecter. Donc le respect, c'est se respecter soi-même, parce que quand on accepte que l'autre dépasse des limites, ça veut dire que soi-même on se respecte pas. Et puis se faire respecter justement en réaffirmant, reposant ses limites. Alors le problème, c'est qu'à la base de la violence conjugale, très souvent, il y a déjà au départ une faible estime de soi et un manque de confiance en soi, parce que sinon la personne n'aurait pas accepté d'être victime. Et elle aurait immédiatement posé des limites, se serait fait respecter, en tout cas réagi. L'emprise, la violence ont encore plus blessé cette image de soi un peu défaillante.
Donc il y a une escalade dans la dégradation.
Et du coup, ça veut dire de restaurer l'image de soi, de restaurer la confiance en soi, et puis de restaurer aussi ses ressources, parce que c'est usant, la violence, et ça veut dire que la personne est épuisée,
affaiblie.
Voilà, il y a toutes ces ressources à restaurer aussi. Donc, ça veut dire de prendre soin de soi. C'est vraiment un besoin. Et là, les amis, la famille, parfois le travail, ou de reprendre un travail, parfois. Si la personne ne travaillait plus, par exemple, pour s'occuper des enfants, de reprendre un travail, la thérapie, tout ça, ça peut aider à retrouver une bonne estime de soi, dans la mesure où la personne entre dans un processus de restauration de son image. Voilà, mais ça, c'est un travail indispensable pour ne pas retomber dans les mêmes modes relationnels. Il faut vraiment restaurer l'image de soi et la confiance en soi.
Là, alors, peut-être quelques conseils pratiques encore, en cas de violence physique, par exemple.
Alors, quand il y a violence physique, il est important de se préparer à partir à tout moment.
Donc, se tenir prêt.
Se tenir prêt.
Et ses affaires prêtes, quoi.
Donc, d'avoir ses affaires prêtes, de savoir chez qui on peut aller.
Oui.
Une amie, quelqu'un de la famille, une association. Et ça, parce que la violence physique, on sait quand ça commence, on sait jamais quand ça s'arrête. Ni jusqu'où ça va. Et donc ça, c'est pour éviter un drame qu'on voit régulièrement dans les journaux, dans les médias. Voilà, faut être prêt à pouvoir partir à n'importe quel moment. Et plus la violence s'intensifie, plus la victime est en danger. Et donc, il est nécessaire qu'elle puisse avoir une solution de fuite. Et il n'y a pas de honte à fuir devant la violence. Hein, c'est une réaction saine de protection. Voilà, quand ça devient vraiment critique, voilà, ça peut aller, ça peut être d'aller chez une personne de confiance, de porter plainte aussi, parce que là, la police, la justice va prendre des mesures d'urgence pour protéger la personne, pour protéger les enfants, d'aller dans une association spécialisée pour avoir un hébergement d'urgence. En tout cas, il faut avoir une solution de prête.
L'important, c'est d'en avoir une.
De ne pas avoir à chercher dans la panique, de savoir que s'il y a un moment où ça devient trop violent, on peut partir et on sait où on va.
Et puis, peut-être aller avoir des preuves aussi, s'il y a des violences physiques, garder des preuves.
Voilà. Alors, les preuves, il faut les accumuler au fur et à mesure,
bien sûr.
Pour aller devant la justice, il faut des preuves. Donc, ça veut dire de les avoir gardées avant l'urgence, avant de partir. Parce que après, bien souvent, c'est plus compliqué. On se souvient plus bien de ce qui s'est passé. On a du mal à retrouver vraiment le détail des faits. Donc, il faut vraiment... Parce que la justice, ça met des temps.
Ah, bien sûr.
Des temps, donc.
Grand merci, Pascal Barinet. On écoute tout de suite Daniel Guichard. Le contrepoids, la tendresse.
Radio Notre-Dame.
La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer, mais être heureux de se trouver à nouveau deux. C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu, avec le cœur au bord des yeux. La tendresse, la tendresse. C'est quand on peut se pardonner sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire. C'est quand on peut se séparer sans se maudire, sans rien casser, sans rien détruire. La tendresse. La tendresse, c'est un geste, un mot, un sourire quand on oublie que tous les deux on a grandi. C'est quand je veux te dire je t'aime et que j'oublie qu'un jour ou l'autre l'amour finit. La tendresse, la tendresse, la tendresse, la tendresse, la tendresse. Allez, viens.
C'était Daniel Guichard, La Tendresse. On va écouter tout de suite Anne-Marie, qui est en ligne. Bonsoir Anne-Marie.
Oui, bonsoir. Je vous remercie pour votre émission, qui m'a déjà beaucoup aidée à comprendre le processus de la violence entre le conjoint.
Ouais.
Et je vous téléphone parce que j'ai une amie qui s'est confiée à moi, enfin que je connais depuis longtemps, et je ne sais pas quel recours elle peut... quel recours je peux lui conseiller pour un homme qui s'est introduit chez elle et qui ne l'aime pas, enfin elle ne l'aime plus en tout cas, et qui ne veut pas en sortir, hein, qui est alcoolique, qui ne veut pas se faire soigner, qui est malade psychologique aussi, et elle est dans une situation insupportable. Il la méprise, il la traite comme une domestique, il la détruit progressivement. Et ça devient, je sens qu'elle perd pied.
Ouais. Déjà, alors ce qu'elle peut faire, c'est accumuler, dans un premier temps, accumuler des preuves, hein, c'est ce qu'on disait, parce que là, on est plus dans l'ordre de la violence psychologique.
Oui, tout à fait.
Mais la violence psychologique est aussi reconnue par la loi et réprimée.
Oui.
Donc, à partir du moment où elle aura accumulé des preuves, à ce moment-là, elle peut porter plainte. Et puis, il y aura des mesures de protection. C'est-à-dire que si elle est chez elle et que cet homme veut pas, et que cet homme veut pas partir de chez elle, la justice le fera partir.
Ah oui, il y a une possibilité que la justice le fasse partir.
Ah oui, tout à fait. Oui,
ah
oui,
oui, d'accord, oui. D'accord.
Voilà.
Oui, et surtout qu'ils ne sont pas mariés. Hein,
s'ils ne sont pas mariés.
Ils s'aimaient au départ, mais voilà, ça s'est usé progressivement.
Et donc lui, il s'est incrusté.
S'ils ne sont pas mariés, si le bail. Si le bail est à son nom à elle.
Oui, le bail est à son nom à elle.
Voilà, elle peut même changer les verrous et mettre ses valises.
Oui, c'est ce que je lui ai conseillé, oui.
Voilà. Et s'il réagit violemment, elle appelle la police et.
D'accord.
Ils feront une mesure de protection.
D'accord.
Elle dit son cas et voilà le cas. Hein.
D'accord.
Donc, vous voyez, c'est quand même pas si. Il y a une possibilité. Hein, de...
Voilà, oui, après, d'accord. Après, peut-être ce qui la retient, c'est la culpabilité de le mettre dehors ou séparer.
C'est sûr. Et puis je pense qu'elle a un mépris d'elle-même. Je pense qu'elle a une grande culpabilité.
Voilà.
Et à travers ce que vous avez dit là de tous les stades, tout le cycle de violence, elle est passée par toutes ces phases-là à plusieurs reprises.
Ouais.
Et après, il lui dit effectivement qu'il l'aime, etc. Donc elle, les premières fois, elle a dû espérer que ça allait s'arranger. Mmh. Et là maintenant, ça n'est plus possible. Voilà. Et elle se rend compte que.
Mais elle est dans une relation, enfin dans une situation, en tout cas sur le plan juridique relativement simple.
D'accord.
Parce qu'elle
n'a pas du tout de famille autour d'elle. Hein.
Voilà.
C'est une jeune malgache qui est venue en France, qui a acquis la nationalité française. Et elle est seule.
Elle travaille.
Oui. Elle a un travail.
Elle a quand même beaucoup d'atouts.
Elle est auxiliaire de vie dans une maison de retraite. Oui.
Voilà, mais déjà, elle peut se faire aider.
Oui, je pense qu'elle a, elle a honte. Hein. Je pense qu'elle est très biaisée vis-à-vis de son travail. Elle veut pas en parler. Voilà. Mais est-ce que je pourrais avoir éventuellement le podcast de l'émission
pour vous écoutez sur le podcast.
Vous pouvez la réécouter
en podcast,
En podcast.
Oui. Voilà.
Parfois, c'est sur iTunes aussi.
D'accord.
Et puis vous pouvez aussi demander le CD au Carmel de l'Ermitage.
Ouais. Ah, très bien,
C'est 22 euros, Carmélite de l'Ermitage.
Oui, d'accord.
Voilà. Comme ça, elle peut le réécouter.
Et puis, si elle veut parler, vous pouvez lui dire de m'appeler aussi. Si elle a besoin de conseils ou de parler, voilà.
Bon, je vous remercie beaucoup pour elle, parce que je suis très triste pour elle et je voudrais pouvoir l'aider, mais je me sens très impuissante.
Non, mais vous avez des pistes là, quand même.
Voilà.
Puis il y a aussi les sites, violence conjugale.
Voilà, il y a
violence conjugale. Tout ça,
Mais voilà, sa situation est relativement simple. La seule chose qui...
C'est son isolement qui
l'empêche. C'est les aspects psychologiques d'isolement, de culpabilité, de honte, enfin tout ce qu'on a dit là.
Voilà. Voilà.
Mais sinon, c'est relativement simple puisqu'elle n'est pas mariée, elle est chez elle et cet homme s'incruste.
Oui, il n'y a pas d'enfant. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup.
De rien.
Merci, Marie.
Bonne soirée.
Bon courage pour elle. Merci, bonsoir.
Merci.
On va peut-être pas avoir le temps d'écouter parce que on peut peut-être dire un mot
des enfants.
Hein, dans tout cela, c'est important.
Oui,
puis
parce
on répondra
que,
à Céline autre, directement.
Voilà, que les enfants sont aussi victimes, parce qu'un enfant qui vit dans un climat de tension quasi permanente, et puis de violence qui explose, il ne peut qu'avoir des conséquences psychologiques.
Mais oui, ça se comprend. Hein.
Il faut pas se faire d'illusions, même si les parents imaginent mettre les enfants à l'abri ou ne se disputer que quand les enfants dorment ou je ne sais pas quoi.
De toute façon,
il sent les tensions, dans sa chambre, il entend les cris.
Faut pas se faire d'illusions, donc il faut protéger l'enfant.
Voilà.
Oui.
Et alors l'enfant, il va vivre dans un sentiment d'insécurité qui va s'installer d'une façon chronique, c'est-à-dire qu'un enfant qui voit, qui assiste à des violences, je parle même pas qu'il serait battu aussi.
Qui assiste aux disputes de ses parents, à des violences.
Il va, d'une façon chronique, avoir un sentiment d'insécurité qui va rester à l'âge adulte. Souvent, l'enfant va se sentir coupable et va imaginer être à l'origine des disputes.
Oui, ça arrive souvent.
Parce que ça arrive souvent aussi que les disputes éclatent autour des enfants ou au moment du repas. Du coup, l'enfant va se sentir coupable. Il va grandir trop vite et assumer des responsabilités qui ne lui reviennent pas, comme de vouloir protéger sa mère. Si c'est la mère qui est victime, parfois de s'interposer face aux parents violents ou de prendre en charge les frères et sœurs s'il y a des frères et sœurs. Alors, un des risques, c'est qu'il somatise, qu'il va avoir des difficultés de concentration, donc des difficultés scolaires.
Oui.
Et il va se retrouver très souvent dans une grande détresse psychologique, déprimé, même si ça se voit pas forcément chez un enfant, et se sentir impuissant, avec le risque de palliatifs comme l'alcool, la drogue ou des conduites à risque. Voilà.
Donc, il va y avoir... Bon, comment on peut le protéger, alors, puisque... dans ces cas-là, comment protéger l'enfant?
D'abord en mettant fin au cycle de la violence.
C'est ça déjà.
C'est la première des choses. En y arrivant par l'aide de psychothérapie, soit par une séparation. au moins transitoire. Parfois, parfois des séparations transitoires aussi, ça permet à l'autre de réfléchir et d'accepter de se faire soigner. Et puis aussi, que l'enfant puisse voir un psychologue aussi, pour pouvoir parler de son vécu et que des états de stress post-traumatique ne s'installent pas, en quelque sorte.
Que son avenir soit pas...
Que ça se mette pas d'une façon chronique en lui et que ça le perturbe pas jusqu'à tard dans l'âge adulte.
Donc, je crois qu'on a encore beaucoup de choses à dire, mais je voudrais que vous répondiez à Céline en quelques mots, parce qu'on va pas avoir le temps de vous prendre, Céline. Le stress mental qui peut aller jusqu'au traumatisme... est-ce que vous pouvez en parler davantage, du stress mental qui peut aller jusqu'au traumatisme?
Oui, dit autrement, c'est les états de stress post-traumatique, alors qu'ils présentent tout un tas de symptômes, comme de l'anxiété, des difficultés de concentration, des cauchemars. C'est-à-dire que finalement, la violence perçue, que ce soit... visuellement pour l'enfant ou directement pour l'adulte victime, elle s'inscrit dans la mémoire. Et elle s'inscrit, alors si c'est pas traité rapidement, en psychothérapie, elle va s'inscrire d'une façon chronique dans la mémoire et plus on attend, plus ça va être difficile à la ressortir, en quelque sorte, de la mémoire.
Donc ça peut faire un... La personne peut avoir des problèmes psychiques, même psychiatriques, non ?
Alors, dans des violences extrêmes, ça peut mener à des troubles psychiatriques. Dans des violences moins extrêmes, en tout cas, à de l'anxiété, à de l'insécurité, des difficultés à prendre des décisions, à se positionner, à des cauchemars fréquents, peut-être faudrait qu'on fasse une émission complète sur le stress post-traumatique.
Merci Pascal Parinet. Je rappelle les stages sur la dépendance affective, c'est le 24 et 25 mai.
Oui.
Et puis le stage sortir des violences, de toutes sortes de violences, harcèlement, que ce soit familial, au travail, etc. C'est en juin ou juillet plutôt.
Voilà.
Donc le téléphone 06 60 15 79 60 et ifpsy.com pour le site. Et puis il y a le site www.violenceconjugale.paris. Et puis homme maltraité au pluriel tout attaché .com. Voilà pour tous les renseignements pratiques. Merci à tous nos auditeurs, merci également à Marielle qui était au standard et à Guillaume qui était à la technique. Cette émission est disponible sur CD et en podcast. Demain à 22h, écoute dans la nuit, notre invité sera le père Guillaume de Mantière, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Paris de Passy, Notre-Dame de l'Assomption de Passy à Paris, responsable de la vie consacrée féminine pour le diocèse de Paris, enseignant au collège des Bernardins. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et en ce temps de carême, il viendra nous convaincre de la nécessaire conversion, jamais trop tôt, jamais trop tard, selon son ouvrage qui vient de paraître aux éditions des Béatitudes. Très très bonne nuit à tous, à demain.
Podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.